Bonsoir. Depuis plusieurs semaines, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a intensifié ses rencontres avec la classe politique congolaise. Le week-end dernier, il s'est entretenu à Bruxelles avec Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République. Cette rencontre s'inscrit dans une série de consultations progressives menées par le diplomate nigérian auprès des différentes sensibilités politiques congolaises. Avant cela, il avait notamment échangé avec l'ancien président Joseph Kabila, Antipas Mbusanya Mwissi et le président Félix Tshisekedi. Ces rencontres ont pour objectif, selon certaines sources, de préparer le terrain pour un dialogue intercongolais élargi en rassemblant progressivement les principales forces politiques autour d'un objectif commun, la paix. Quelle lecture faites-vous de la démarche que mène l'ancien président nigérian? C'est le thème de notre débat d'aujourd'hui et pour en parler, je reçois dans ce studio de Radio Capi Joseph Nkoy, il est député national et cadre de l'Union Sacrée, il est rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée Nationale, il est aussi vice-président en charge des questions diplomatiques du réseau des jeunes parlementaires congolais. Joseph Nkoy, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Capi, je vous remercie une fois de plus pour cette invitation.
Christian Mwando, député national, élu de Momba dans la province du Tanganyika, il est cadre d'Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition, il est également président du groupe parlementaire Ensemble, voilà, à l'Assemblée Nationale. Christian Mwando, bonsoir.
Bonsoir, je dis aussi bonsoir à tous mes compatriotes de l'Est et à tous mes compatriotes du Katanga.
Regan Mibiri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, j'ai consigne. Regan Mibiri, bonsoir.
Bonsoir madame.
À Matadi, dans la province du Congo central, vous nous suivez sur la 102.0 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur l'ISTV canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube ou le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, depuis quelques semaines, l'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo multiplie des rencontres avec la classe politique congolaise. Le week-end dernier, par exemple, il a rencontré à Bruxelles le président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, entouré d'un de ses proches, le sénateur Salomon Kalonda. Avant la rencontre du week-end dernier, le diplomate nigérian avait échangé avec l'ancien président Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi à Kinshasa. Les détails avec vous, Bertin Kassiama.
L'ancien président nigérien fait partie du groupe des cinq anciens chefs d'État mandatés par la communauté de développement d'Afrique australe, Southern African Development Community, SADC, et la communauté d'Afrique de l'Est, East African Community, EAC, pour faciliter la résolution de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon plusieurs sources, Obasanjo cherche à baliser la voie à un dialogue intercongolais élargi en rassemblant progressivement les principales forces politiques autour d'un objectif commun, paix. D'autres acteurs politiques ont également été consultés par les diplomates nigérians, c'est entre autres Mbusanya Mwissi. Et il prévoit, d'après certaines informations, de rencontrer prochainement des évêques congolais ainsi que l'opposant Martin Fayulu. Il faut noter que l'ancien président du Nigeria est présent dans les rouages politiques et sécuritaires de la RDC depuis de longues années. Fin avril, Obasanjo était à Washington présent lors de la signature de la déclaration des principes entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda.
Merci Bertin Kassiama. Joseph Nkoy, je rappelle que vous êtes député national et cadre de l'Union Sacrée. Vous êtes rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée Nationale, mais vous êtes aussi vice-président en charge des questions diplomatiques du réseau des jeunes parlementaires congolais. Quelle lecture vous faites de toutes ces consultations menées par Olusegun Obasanjo qui figure parmi les cinq anciens chefs d'État mandatés par la SADC et l'EAC pour faciliter la résolution de la crise dans l'est de la RDC?
Bien, merci beaucoup Madame Kelly. je pense que vous venez de le souligner de la, dans votre lecture, c'est que Obasanjo, dans les cadres des initiatives de paix à République démocratique du Congo, vient à contribuer dans l'intégration, dans la dynamique interne, pour parvenir à résoudre la question d'insécurité en République démocratique du Congo dans une approche plus globalisante, plus holistique. Il faut souligner que Obasanjo, c'est pas pour la première fois qu'il puisse participer dans les dans la résolution des conflits en RDC. Nous l'avons vu en 2009 dans lorsqu'il y a eu toujours avec le M23, Obasanjo a été parmi les facilitateurs et cela avait abouti à la signature de l'accord de paix entre le gouvernement congolais et les M23, ce qui nous avait permis d'assister à une accalmie temporaire. Et bon, voilà. Ce que je peux souligner encore, c'est que on reconnaît que à part le fait qu'il y a un problème entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, il y a des problèmes aussi au niveau interne et que de ces faits, cela doit être résolu. Donc, c'est en toute responsabilité.
Vous saluez la démarche?
Oui, parce que en fait, ça vient, comme je le dis, intégrer dans le cadre du processus de paix démocratique du Congo à intégrer l'approche interne pour parvenir à mettre en commun tous les leaders politiques. En fait, c'est un élément de complément aux discussions de Washington qui ont pour but principal de résoudre les problèmes entre la RDC et le Rwanda de manière définitive. Encore que là, on ne peut pas seulement aborder cette question sans pour autant finir ce qui est comme inquiétude au niveau interne. Il faut parvenir à trouver à la fois la paix ou la solution au niveau interne et au niveau international.
Alors selon certaines sources, l'objectif de toutes ces rencontres, c'est pour parvenir à un dialogue intercongolais.
Évidemment, le dialogue intercongolais n'est pas mauvais. Seulement, ce que nous pouvons insister comme parlementaires, surtout aussi comme jeunes Congolais, nous ne voudrions pas rentrer ou assister à la conférence nationale souveraine BIS ou à Sunset BIS. Ça nous met dans une sorte de cercle vicieux. Nous voulons avancer. Évidemment, il y a des problèmes qui se pose au niveau interne, mais il y a, on peut parvenir à définir un cadre pour arriver à le résoudre. Donc nous ne voulons pas rentrer encore en arrière.
Ce cadre pourrait ressembler à quoi? Pas à un dialogue?
Évidemment, peu importe la forme, c'est toujours un dialogue. Mm-hmm. Quand vous vous mettez en table pour discuter, c'est un dialogue. Seulement qu'il faut insister sur les formats de ces dialogues. Il y a des problèmes congolo-congolais et nous voulons discuter au niveau interne sans arriver au basculement ou à des dynamismes ou dynamiques plus fortes au point de changer toute l'architecture institutionnelle.
Pas question d'un gouvernement de transition, par exemple?
Non, c'est ce que je dis. Nous n'avons pas besoin de parvenir au basculement, au changement de l'architecture institutionnelle mise en place sur base de la Constitution en vigueur actuellement. Et c'est évidemment, comme je dis, il y a des problèmes. Nous pouvons parler sans pour autant toucher à des questions sensibles qui concernent la vie nationale, qui concernent la démocratie, notamment ne pas toucher à, comme je l'ai dit, aux institutions constitutionnellement établies. Nous voulons aller avec notre constitution. Évidemment qu'il y a des imperfections, mais cette constitution, tiens encore, nous pouvons organiser la vie de notre pays sur base des principes fondamentaux fixés dans cette constitution.
Mais la finalité serait quoi de ce dialogue dont vous parlez, à la fin de ce dialogue?
La finalité, c'est mettre les Congolais ensemble pour construire l'avenir du Congo ensemble. Parce qu'il faut dire, l'important ici, c'est quoi? Ce n'est pas de changer de régime, de passer une transition, encore que la transition ne viendra pas automatiquement résoudre les problèmes congolais. Nous avons besoin d'un dialogue direct, sincère, entre le Congolais, c'est dire des choses en face, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et comment faire pour faire avancer cela. Et c'est là, pour y parvenir, on n'a pas besoin d'arriver à une transition, d'échanger les gouvernements qui est là, d'arriver à avoir un parlement de transition. Nous n'avons pas besoin de ça. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Les Congolais ont besoin de se parler en face, de trouver des problèmes, des solutions aux problèmes qui sont les leurs, dans le respect de la Constitution, dans le respect de la démocratie ou des acquis de la démocratie que nous avons déjà. On n'a pas besoin de faire encore des pas en arrière. Nous devons avancer.
Christian Mando, vous êtes député national élu de Moba dans la province du Tanganyika. Vous êtes cadre d'ensemble pour la République, parti politique de l'opposition. Vous êtes également président du groupe parlementaire Ensemble à l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez sur cette démarche de Obasanjo?
Nous sommes particulièrement fiers de ce qu'un président, un ancien président africain est en train de faire pour la paix. Et nous considérons que ça concourt aux quatre axes de dialogue ou de concertation pour la paix qui existent. Nous avons quatre axes, si vous pouvez bien le comprendre. L'axe numéro un, c'est l'axe CENCO-SCC, qui est ce qu'on appelle le processus de Kinshasa. Il veut mettre les Congolais ensemble. Nous avons le deuxième axe, qui est l'axe ESC-SADC, dans lequel est impliqué le président Obasanjo, qui est le processus de Dar es Salaam, qui voudrait la paix et qui voudrait la concertation régionale, parce que c'est un processus régional. Nous avons le troisième axe, qui est l'axe Doha, et un processus entre l'AFC et le gouvernement. Et nous avons l'axe Washington, qui est l'axe où le Rwanda négocie avec la République démocratique du Congo, avec des intérêts économiques derrière. Le président Obasanjo est un président reconnu, comme l'a dit mon collègue, mon prédécesseur, qui connaît bien la matière congolaise. Je pense que dans la répartition des rôles qui a été faite par les médiateurs, parce qu'ils sont cinq avec à leur coordination le président du Togo et Adema, lui, il est censé travailler au corps à corps avec les interlocuteurs congolais. Et c'est une bonne chose parce que nous considérons aujourd'hui, et je veux dire même à mon collègue, que aujourd'hui, il n'est pas bon qu'on puisse revenir à des choses telles que lever des immunités, les attaques, l'absence de passeport, alors qu'aujourd'hui, je pense que tout le peuple congolais et tous les Congolais sont prêts pour se parler pour la vérité et la réconciliation. Donc, j'appuie parfaitement la démarche du président Obasanjo, qui cadre effectivement avec le processus donné par la CENCO et SEC, qui veulent que nous, les Congolais d'abord, on puisse parler, parce que un peuple divisé ne peut jamais gagner la guerre. Voilà un peu ma compréhension de cette question.
Alors, que les peuples congolais puissent se parler autour d'une table, sous format, je sais pas, dialogue. Ça sera comme un dialogue entre les Congolais.
Il faut absolument que nous puissions nous parler, parce que vous savez, une réconciliation sans qu'on se dise la vérité. Parce qu'aujourd'hui, ce que cherche Obasanjo, ce que cherche la SADC, c'est que d'abord nous soyons forts à l'intérieur. Parce qu'en étant forts à l'intérieur, en étant unis entre Congolais, en étant ensemble, en nous ayant dit ce qui s'est passé de mal et ce qui va se passer de bien, c'est ce qui va faire de nous un peuple fort. Donc, nous, en tant qu'ensemble, nous sommes pour le dialogue. Le dialogue,
le dialogue pour aboutir à quoi, Christian Mando? Dialogue pour aboutir à quoi?
Le dialogue pour aboutir à la vérité, pour aboutir à la concertation, pour avoir entendement commun de ce que nous voulons faire de notre pays. Vous savez que, en réalité, hein, à l'est du pays, dans l'ensemble du pays, le peuple souffre. Mais il faut que nous, les cadres politiques, nous, les hommes politiques, qu'on puisse parler, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi on n'avance pas. Pourquoi on est battu par un petit pays comme le Rwanda? Pourquoi on est battu? C'est parce que nous sommes totalement responsables. Et il faudrait que nous puissions analyser le fond de notre problème et que nous puissions prendre conscience de ce que nous sommes et que nous puissions nous unir, quelles que soient nos différences, pour que nous allions de l'avant. Et sans dialogue, sans concertation, avec tout ce qui est en train de se faire, je pense que, madame, vous savez que demain, il y a une grande réunion au Sénat où on veut lever les immunités de l'ancien président. Est-ce que ça concourt à la paix? Nous voulons l'apaisement, nous voulons parler, nous voulons nous dire des vérités, à partir de ces vérités, tracer un autre chemin pour notre pays.
Ça veut dire quoi concrètement, tracer un autre chemin pour le pays? Parce que selon nos informations, le dialogue que recherche l'ancien président nigérian est d'aboutir à la mise en place d'un gouvernement de transition. Est-ce que vous partagez,
oui,
vous
mais,
êtes...
Mais c'est tout à fait... Je partage parfaitement ce point de vue parce que lorsque vous vous mettez autour d'une table, c'est comme une famille, lorsque la famille se met autour d'une table, elle voit les erreurs du passé, elle voit les défis du futur. En ce moment, cette famille, autour d'une table, va dire que voilà maintenant comment nous allons nous comporter. Et la manière dont nous allons nous comporter, il va donner à chacun la ligne de conduite et qui va contrôler, qui va diriger, qui va mettre les choses en ordre. Ça ne peut qu'aboutir à un gouvernement d'union nationale, pas tel qu'on a voulu le faire de manière cavalière, mais en ce moment-là, on va dire que tel, vous êtes les mieux attitrés, vous êtes les mieux placés pour conduire la feuille de route. Lorsqu'on termine le dialogue, on doit mettre en place une feuille de route. Qu'est-ce qu'on va faire pour le futur? Mais en ce moment-là, on cherche aussi qui va le faire. Et en ce moment-là, interviennent les acteurs. Et je crois que c'est tout à fait logique.
Est-ce que ça ne serait pas, comme l'a dit le député Nkoy, que ça serait faire un grand pas en arrière, alors que le pays doit aller de l'avant, doit avancer?
Non, le pays veut aller de l'avant. Est-ce que nous avons eu de bonnes élections? Est-ce que nous avons une bonne concourse? Est-ce que nous avons une bonne CENI? Est-ce que les élections se sont passées correctement? Tout ça, ça doit être sur la table. Parce qu'aujourd'hui, n'essayons pas de garder des postures pour dire que moi, j'ai déjà eu ça. Même pas tricherie. Donc, on ne bouge pas. Non, il faut, si la guerre est arrivée, je pense que notamment, il y a les non-dits, il y a les frustrations, et c'est à partir de cela qu'on doit se mettre autour d'une table et dire que non, voilà, ceci a été mal fait, cela a été bien fait, et comment on fait avancer. S'il faut, demain, après-demain, remettre en place par concertation les institutions, je suis tout à fait d'accord. Mais là où j'insiste, et je ne suis pas avec certains, même de mes amis de l'opposition, c'est de dire l'institution présidente de la République, ça, je pense qu'on ne doit pas bouger parce que c'est remettre en cause et refaire le cadre institutionnel. Alors qu'aujourd'hui, il est clair qu'il ne reste que 3 ans et demi à ce qu'il dit. Moi, je suis d'avis qu'il faut le laisser les 3 ans et demi, mais le gouvernement avec la feuille de route pour la paix, il faut mettre en place un nouveau gouvernement du national. Il faut remettre en place les institutions consultées et équilibrées, parce que vous le savez très bien, madame, aujourd'hui, des institutions monocolores à l'Algérie, ça, ça ne marche pas. Et personne ne peut l'accepter. Et si
un gouvernement d'union nationale avec l'opposition, l'opposition fera partie de ce gouvernement. Et à la fin du mandat de Félix Tshisekedi, l'opposition sera aussi responsable du bilan du président de la République.
Non, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, si on met un gouvernement d'union nationale, il y a un contrôle mutuel entre les partenaires pour accomplir une feuille de route qui aura été mise en place par le dialogue. Hein, c'est ce dialogue qui va mettre en place une feuille de route. On va voir point par point qu'est-ce qui sera accompli. On est ensemble une cour constitutionnelle concertée, on est ensemble une CENI concertée et on va à des élections propres qui vont donner une véritable légitimité aux gens qui viendront et ça, ça mettra aussi la paix et le plein confiance.
Merci Christian Mando. Rigel Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, j'ai comme sigle. Alors, Maître Miviri, quelle est votre lecture, hein, ou quelle lecture vous faites de la démarche d'Obasanjo?
C'est déjà une démarche à encourager. J'ai comme l'impression que c'est la première démarche qui va au-delà des questions régionales et internationales qui s'intéressent beaucoup plus à ce qui se passe à RDC et tout ça c'est quand même encourageant parce que j'ai comme l'impression que c'était quelque chose qui manquait dans tous ces différents processus. Mais il est important que l'on clarifie encore voilà son rôle. Il est facilitateur et un facilitateur aura pour rôle tout simplement d'identifier les zones de friction et aussi identifier les opportunités de résolution. Et pour ça, j'ai comme l'impression qu'il faudra maintenant que les Congolais eux-mêmes se saisissent en fait de ce cadre-là. Ça sera juste un cadre, mais à la fin de compte, le contenu viendra des Congolais. Et pour moi, le contenu, c'est d'abord identifier le but. Quel est le but commun qu'on a maintenant? J'ai comme l'impression que le but, il s'agit de protéger, au mieux d'ailleurs, de sauver le Congo. Je ne sais pas si au Congo, on a cette même compréhension de ce qui nous arrive et de ce qu'on doit faire. Après avoir entendu les différents intervenants, après avoir entendu les différents débats qui se passent en RDC, j'ai comme l'impression que on a encore un chemin à faire avant de comprendre que ici il s'agit de protéger et de sauver le Congo. Il ne s'agit pas de sauver un pouvoir, moins encore de profiter d'une situation malheureuse pour essayer d'accéder au pouvoir. Donc, et ça c'est dommage parce que pour moi j'ai comme l'impression qu'ici il y a entre les gens qui sont au pouvoir qui pensent qu'il y a une opportunité de protéger un pouvoir et chaque dialogue il le repousse tout simplement parce qu'il pense que ça vient menacer le pouvoir. Mais il y a aussi en fait des acteurs de l'opposition qui clairement dans leurs éléments de langage, ils veulent profiter d'une crise malheureuse qui a beaucoup de victimes, tout simplement pour accéder au pouvoir sans forcément changer la situation et changer les politiques qui nous ont amenés jusqu'ici. Donc, pour moi, j'aimerais interpeller encore une fois les uns des autres sur le but commun qui devait être protégé de Congo. Et pour ça, il faut rassurer ceux-là qui ont peur que ces différents processus puissent les amener à perdre du pouvoir. Mais il faut aussi dire aux autres et les rassurer que c'est une opportunité aussi d'unir tous les peuples congolais pour le rendre fort à l'intérieur face à toutes les menaces qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, on a vu, par exemple, l'actualité politique de cette semaine et ces derniers mois, ce n'est pas de nature à rassurer notamment les gens qui sont à l'opposition. Autant les prises de position qui vont vers un changement de pouvoir ne sont pas aussi de nature à rassurer ceux qui sont au pouvoir. Donc on devrait aller au-delà de ce... ces guerres et se focaliser sur ce qui est le principal. Et d'ailleurs, j'ai comme l'impression que cette proposition d'aller vers un partage de pouvoir, c'est encore une fois revenir sur des vieilles recettes qui n'ont pas marché en fait. À la fin de compte, quand il y a un partage de pouvoir, il y a un gouvernement dit d'union nationale, parce que bon, mais je ne crois même pas qu'il y a union nationale, en fait, c'est plutôt union des profiteurs, en quelque sorte, en fait, des gens qui vont se mettre ensemble et profiter ensemble, et tout ça, c'est souvent une opportunité d'oublier les vrais problèmes, étant donné que chacun sera en train d'avoir son compte, et donc le peuple sera celui qu'on va oublier dans tout ça. Et ce consensus pour le statu quo, a comme conséquence, en fait, de continuer avec la situation telle qu'elle est. Quand on est au pouvoir, c'est très difficile d'accepter des réformes courageuses qui risquent même de toucher à son propre pouvoir. Donc, avoir toute l'opposition, tous les acteurs de la société civile au pouvoir et la majorité elle-même, ça signifie tout simplement on accepte aussi un statu quo. Ça sera difficile d'avoir des checks and balances. Donc, il y aura difficile d'avoir de la critique. On va faire un bloc comme si un bloc monocolore, mais qui se rassemble tout simplement sur le fait qu'on se partage le pouvoir. Pourtant, personne n'a dit que le problème du Congo, c'est le fait que les gens ne se sont pas partagés le pouvoir. Pourquoi ça serait ça la solution? Le problème du Congo, c'est qu'il y a... Il y a des structures qui ne marchent pas, il y a l'État qui ne contrôle pas tout son territoire, il y a les services publics qui ne marchent pas, et pour ça, partager juste des ministères ne va pas résoudre cela. La preuve, c'est qu'on est en train de faire ça depuis les dernières années, on pourrait parler de 25 dernières années, mais ça n'a pas résolu le problème. Ça recycle tout simplement les mêmes acteurs qui aujourd'hui sont à l'opposition, ils reviennent au pouvoir, ils font la même chose et ça ne change pas grand-chose. Donc cette fois-ci, si on peut avoir un dialogue intercongolais qui n'a pas comme but le partage de pouvoir, mais qui a comme but la construction d'un État, peut-être cela pourrait être enfin un changement substantiel et un changement structurel pour ce pays.
Alors donc, on retient Rigen Mivihi, oui, pour un dialogue, mais pas pour mettre en place un gouvernement de transition comme ça se passe.
Pas forcément. Ça pourrait être un élément qui peut en sortir après, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de construire un État. Si pour construire un État, on a besoin que l'on puisse encore réajuster les acteurs politiques, les gens qui sont là, et qu'on y mette du 109, surtout du 109, parce que je ne crois pas que l'on puisse faire un nouveau gouvernement avec les mêmes personnes, les mêmes noms mobutistes, et ceux-là qui ont été dans le régime passé, on les recycle, on les brasse, et puis on espère avoir en fait un bon vin avec de vieilles... dans les bases. Donc, moi, j'ai vraiment peur que l'on puisse tenter d'être tout simplement d'essayer ce qu'on a déjà essayé et que, à la fin des comptes, on se rende compte qu'on est à la phase de départ. Donc, le but, ce n'est pas le partage de pouvoir. C'est souvent ça la tentation pour les politiciens, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de sauver le Congo et de donner un avenir à ce pays.
Alors, Rigen Mivihi, Obasanjo, fait partie des 5 anciens chefs d'État mandatés par la SADC et les EAC pour faciliter la résolution de la crise dans l'est de la RDC. Mais pourquoi c'est lui qu'on voit très actif sur le terrain, en train de rencontrer certaines personnalités politiques congolaises? Les 4 autres sont en retrait, on ne les sent pas. Qu'est-ce qui peut expliquer cet activisme d'Obasanjo?
Je ne sais pas précisément, mais je peux imaginer que son passé y est pour quelque chose. C'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience en RDC, qui a ses entrées, qui connaît les acteurs. Et ça, ça aide souvent quand on est un facilitateur. Et la compréhension des contextes est un atout. Si on compare ce qu'il fait avec ce que les Qataris font, j'ai comme l'impression qu'il a une meilleure compréhension du Congo que les autres. On peut même regarder le fait qu'il comprend aussi les facteurs, il comprend un peu l'histoire aussi. Et j'espère que ça va le permettre à ce qu'il ne puisse pas tomber dans le piège de refaire le processus des paix qui ont été là et qui souvent ont été mal ficelés, tout simplement parce que ils ont été de forums ou de foires à partage de budget.
Merci, Maître Midiri. On va donner aussi la parole à ces nombreux Congolais qui nous suivent de partout. Le standard est déjà ouvert. Nous signale la réalisation. On va se rendre au Kasaï central pour écouter cet auditeur qui nous appelle.
Hervé Kasonga Kampashi, depuis Kananga, dans la province du Kasaï central. Il est impérieux de voir l'ex-président nigérien Obasanjo initier les démarches sérieuses visant à réunir tous les acteurs de la classe politique congolaise qui, pour des raisons politiques, sont dissociés. Vraisemblablement, il est à encourager. À la lire où vont les choses, les acteurs politiques congolais opposants, société civile, ceux du gouvernement, semblent actuellement n'être pas prêts pour s'unir et trouver solution aux problèmes du quotidien congolais, qui est la résultante d'une responsabilité collective de toute la classe politique. La mauvaise foi règne au sein de la société congolaise qui ne veut pas travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Nous sommes dans un état où le règlement des comptes est à tous les niveaux. Et comment chercher à réunir les individus qui n'ont pas la volonté de se réunir? Le doute persiste quant à l'optimisme de la mise en place des résolutions vu le système de règlement des comptes politiques qui est déclenché entre les figures fortes du pays.
Joseph Nkoyi, difficile de réunir des gens lorsque on cherche à se rendre, à se régler des comptes, hein. Lorsqu'il n'y a pas de sincérité entre personnalité politique, la classe politique congolaise.
Oui, il faut dire que l'un des maux qui ronge notre pays, c'est le fait de vouloir toujours tirer les draps de son côté, vouloir avoir toujours raison, alors que lorsque nous sommes dans une dynamique comme celle-ci, il faudrait à un moment donné qu'on puisse s'arrêter et dire ben je suis congolais autant que les autres. Nous pouvons donner aussi la chance aux autres congolais de bien faire des choses pour parvenir à trouver les solutions aux problèmes qui sont congolais. Je vais revenir dire quelques mots sur l'intervention de mon collègue Christian. Quand vous le suivez, il ne sait pas dire clairement à quoi ces dialogues doivent aboutir. Est-ce que c'est un gouvernement d'union nationale? Est-ce que c'est un gouvernement de transition? Quel sera l'avenir du Parlement? Parce que lui, il protège l'institution président de la République, qui ne doit pas être prise en compte dans le cadre de discussions dans ces dialogues-là. Mais pour lui, on peut bouger les gouvernements, ce qui est tout à fait normal. Et le Parlement, il n'en a pas parlé. Donc, nous devons savoir ce que nous voulons. Soit que l'on dit on veut une transition et que l'on change l'architecture institutionnelle en remettant en cause notre jeune démocratie. Soit que l'on dit bon, il y a des problèmes conjoncturels et structurels. Voici comment nous devons le résoudre dans un cadre de sincérité. Il faut retenir ceci. que la transition dans notre pays ne viendra pas résoudre le problème congolais. C'est d'abord la mentalité des dirigeants congolais, c'est d'abord la disposition de l'esprit à pouvoir faire avancer notre pays. Je suis jeune, j'ai un regret. Le regret que j'ai, c'est quoi? C'est que j'ai comme l'impression que nous tournons en rond, le pays n'avance pas. Lorsqu'on fait un pas, deux pas, on veut que nous puissions reculer encore de cinq pas. D'autres pays sont en train de construire d'autres pays sont en train de se construire, de se développer. Mais notre pays n'avance pas. Pourquoi? Parce que les acteurs politiques, tous, sans exception aucune, cherchent à tirer les avantages, les droits de son côté. Je pense que le moment est venu où on doit se dire des choses en face et que l'on arrive, comme l'a dit, à mettre en place ce que je peux considérer comme une sorte de boussole, une feuille de route pour permettre à ce que nous puissions arriver à atteindre tel ou tel objectif en ayant tel délai. Ici, le Congolais n'a pas besoin de voir encore que nous puissions assister à cette période de 2003, 2004, 2005. Nous avons besoin des institutions stables. Aujourd'hui,
mais justement, ce dialogue pourrait aider à avoir des institutions stables. Joseph, quoi, vous ne pensez pas?
Les institutions de transition n'ont jamais été stables.
Qui vont aider?
Les institutions stables sont
vous
celles...
Vous parlez bien des transitions, c'est une transition.
Oui, c'est ce que je dis. Les institutions stables sont celles qui sont mises en place sur base de la Constitution. Nous avons une Constitution. Évidemment, comme je l'ai dit, il y a de quoi reprocher à cette constitution. Mais aujourd'hui, il faut plus voir le bien-être du Congolais. Dans ces forats-là qui seraient organisés, dans ces dialogues-là qui, entre guillemets, aboutiraient pour certains à une transition, quelle est la part du Congolais? Quand je parle du Congolais, c'est du Congolais lambda. Il faut dire qu'il y a aujourd'hui... la vie du Congolais doit être traitée ou doit être analysée avec beaucoup de responsabilités. On ne doit pas privilégier nos intérêts politiques, mais on doit plus voir l'avenir de son pays. Je pense, pour que l'on puisse mettre en place ou que l'on puisse exécuter une feuille de route avec des actions bien précises, nous n'avons pas besoin de remettre en cause toute l'architecture institutionnelle actuelle. Je pense, pour conclure, peut-être à ce niveau, on doit se parler. Au niveau interne, on s'est dit des vérités. On voit ce qu'il y a à faire, évidemment avec les institutions actuelles. Et lorsqu'il arrivera 2028, nous partons, nous organisons des élections pour justement arriver à avoir encore une autre dynamique après 2020.
Merci Joseph Nkoyi. J'adore Iguilima depuis Bukavu, au Sud Kivu. Nous sommes pour le dialogue, mais pas pour le partage du pouvoir. Le dialogue devrait plutôt planter le décor pour asseoir des institutions fortes afin de consolider notre jeune démocratie. Après Kananga, au Kasaï central, on va se rendre à Bunia, en Ituri, pour écouter cet autre auditeur qui est en ligne.
Allons, c'est Pianse Merveille, je vous appelle à partir de Bunia en Ituri. La démarche de l'ancien président Nigeria Obasanjo pourrait sembler à première vue un effort louable pour apaiser les tensions à la République démocratique du Congo. Toutefois, le scepticisme demeure quant à l'efficacité réelle de ces rencontres. Les précédentes initiatives similaires n'ont pas toujours abouti à des résultats tangibles et il est difficile de croire que cette approche, bien que diplomatique, parviendra à surmonter les profondes divisions et les intérêts divergents des différents acteurs politiques. Cela soulève des questions sur la véritable capacité de ces discussions à engendrer un changement significatif dans un contexte aussi complexe.
Christian Mando. Allô?
Oui, oui, je vous écoute. Vous
Alors,
m'entendez?
Oui, je vous suis maintenant. Cet auditeur de Bounia.
Allô?
Vous ne m'entendez pas, Monsieur Mando? Est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends, je vous entends.
Alors, vous avez suivi cet auditeur de Bounia?
Je vous entends.
Oui,
vous
j'ai dit. Oui, vous êtes en ligne. On vous suit très bien, Monsieur Mando. Je disais, vous avez suivi cet auditeur de Bounia qui est quand même assez sceptique quant à la finalité même de ces discussions, de ce dialogue dont on parle. Il estime qu'on a eu plusieurs dialogues qui n'ont jamais donné les résultats escomptés.
Oui, il faut se rendre compte d'une chose. Lorsque la famille est divisée, je pense que il appartient aux membres de cette famille, aux responsables de cette famille, de se mettre ensemble, de s'asseoir autour d'une table et de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'avenir. Je voudrais revenir également à ce que mon collègue a dit tout à l'heure, qui est important. La feuille de route va venir du dialogue, c'est-à-dire opposition. Nous savons dans quelles circonstances les élections se sont passées et tout le monde le sait. Il y a eu beaucoup de tricheries, il y a eu beaucoup de marouilles. Aujourd'hui, il est important, comme le pays est divisé, que ce soit Nanga, que ce soit Katumbi, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Fayou, qu'on se mette autour d'une table et qu'on dise qu'est-ce qui nous arrive, nous, en tant que Congolais. À partir de là, nous allons nous dire que maintenant, voilà le chemin que nous allons tracer. Et à partir de là, effectivement, il y a les gens qui seront désignés pour accomplir cette feuille de route. Aujourd'hui, il est important qu'on se mette dans la division ou dans des discussions inutiles. Aujourd'hui, pour nous, si nous faisons ça, tel que le propose l'ECC et la CENCO au niveau du pacte social, c'est de se mettre autour d'une table parce que nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Congo. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut, comme l'a dit l'autre intervenant, est-ce que faut-il intégrer tel ou tel autre? Je pense que ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, ce qui est nécessaire pour le pays, c'est le Congo. Nous sommes en train de perdre ce pays. Nous sommes en train de diviser ce pays. Nous sommes en train de nous battre pour que ce pays reste uni. Et donc, pour moi, il est important, mon collègue a posé la question concernant l'avenir des institutions.
De l'Assemblée nationale,
est-ce que
par exemple.
L'avenir des institutions est plus important. Oui. L'avenir, par exemple, de l'Assemblée nationale. Est-ce que l'avenir de l'Assemblée nationale se dessine avec 98% des membres d'un seul camp dont nous savons comment ils sont passés avec 7 jours, 10 jours, 15 jours de vote dans la chambre à coucher de chacun alors que les élections devaient se tenir à un jour. Est-ce que nous sommes d'accord que à 90% ça reste comme ça? Ce sont des choses qui doivent être mis sur la table et que chacun doit être conscient que, à partir du moment où, parce que la guerre que nous avons ici, ce ne vient pas seulement du Rwanda. La guerre vient du fait qu'il y a des mécontents aujourd'hui à l'intérieur du pays, parce que les élections ne se sont pas bien passées. Et il faudrait qu'on se mette d'accord. Et ça, ce n'est pas Mwando qui va imposer ça, ce n'est pas Fayoum, ce n'est pas Katumbi, ce n'est pas Tshisekedi. C'est autour du dialogue qu'on va se dire qu'est-ce qui est juste. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons que justice. Il y a eu assez de morts et aujourd'hui, on veut la justice.
Merci.
Je voulais revenir
très rapidement.
Obasanjo, je sais que les amis de l'IDPS sont en train de tirer à boulet rouge sur lui comme ils tirent sur chacun qui essaie de faire quelque chose pour ce pays. Obasanjo a été mis là parce que je pense que dans le rôle de chacun des cinq personnes qui ont été désignées, chacun a son rôle. Obasanjo connaît la classe congolaise, comme l'a dit mon prédécesseur. Il connaît les hommes qui composent la classe congolaise et cette classe politique, il la contacte et il fait le travail au corps à corps pour que nous tous, nous puissions nous mettre autour d'une table pour arranger ce problème congolais, que nous puissions tracer l'avenir de notre pays. Je pense que c'est le plus important.
Merci. Jackson Kisangani, vous intervenez depuis, vous nous écrivez depuis la ville de Goma au Nord Kivu. La démarche d'Obasanjo créerait un cadre de dialogue inclusif pour désamorcer les tensions politiques et encourager une solution congolaise à la crise, notamment dans l'est de la RDC. Elle pourrait renforcer la stabilité nationale, relancer la paix et valoriser la médiation africaine comme outil de résolution des conflits. Et on va prendre ce dernier auditeur qui est lui à Kinshasa.
Nekir Tokolo depuis la ville province de Kinshasa. Le démarche en cours de l'ancien président nigérian sont salutaires par le fait qu'elle vise principalement la restauration de la paix et la cohésion nationale dans notre pays. Je pense que pour plus d'inclusivité dans ces démarches, le patriarche nigérien Obasanjo doit rencontrer également les dirigeants des mouvements rebelles opérant dans la partie orientale du pays, notamment la FCM23, la CODECO, afin de se former de vraies motivations de leurs engagements contre la République. Toutefois, la réelle réconciliation au sein de la classe politique congolaise paraît jusqu'à présent hypothétique. Ces doutes sémés dans la mémoire collective induits au manque de sincérité entre le parti en négociation, surtout la majorité et l'opposition, dont les actes de représailles et de trahison se manifestaient au grand jour. Dans ce climat tendu par les conflits, l'issue de ces négociations, à mon avis, restait encore douteuse.
Maître Miviri, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de cet auditeur de Kinshasa?
Moi, je pourrais dire qu'il est important quand même de reconnaître au moins cette initiative a le mérite de faire intervenir les acteurs nationaux. Et bien sûr, je pense aussi qu'on peut encore tisser large, on peut encore impliquer beaucoup plus d'acteurs. Mais en même temps, comme je le disais déjà, j'ai des limites parce que j'ai comme l'impression que, encore une fois, on a des acteurs politiques qui manquent d'humilité et qui ne sont pas aussi prêts à être redevable à la redevabilité. C'est pour ça que pour eux c'est très facile de faire un deal entre eux et qu'on oublie tout et qu'ils puissent créer un consensus pour le statu quo afin de maintenir leurs privilèges. Donc surtout pas, on ne devrait pas tomber dans ce piège là où on va faire du statu quo, où on va refaire ce qu'on a fait. Donc Obasanjo, c'est bien, pourvu qu'il ne puisse pas aussi être influencé à refaire ce qui a toujours été fait depuis toujours. Donc pour moi, je pense qu'il est important que on puisse aller sur des questions de fond, et les questions de fond, c'est toutes les questions qui peuvent permettre à ce qu'on puisse sauver ce pays, qu'on puisse créer des institutions qui sont fonctionnelles, qu'on puisse créer un consensus sur l'état des droits, donc les lois que tout le monde va respecter, les lois qui vont être au-dessus de tout le monde, qui ne vont pas s'appliquer selon qu'on est noir ou blanc, ou selon qu'on est on est de tel camp ou de tel autre camp, ou selon qu'on est de tel camp ou tel autre camp. Donc voilà, ça devait être ça le but en fait. Il y a le co-débatteur qui a évoqué le fait que bon voilà, à un certain moment on parle aussi comme des jeunes, comme des gens qui pensent qu'il y a encore un avenir pour ce pays. Et cet avenir-là, on n'aura pas avec la structure actuelle, on n'aura pas avec la corruption actuelle, on n'aura pas avec les privilégiés d'aujourd'hui, on n'aura pas avec le privilégié d'hier qui veulent être le privilégié de demain. Non, on sera capable de créer un pays qui respecte l'état de droit, un pays qui combat les inégalités, un pays où on construit une justice. Et ça, c'est un travail de longue haleine, mais il faut le commencer. Et juste un gouvernement d'union nationale ne permettra pas de faire cela.
Merci, Régal Mivier. Nous sommes à la fin de notre émission. Joseph Nkoy, quelles sont les conditions pour que ce dialogue que tout le monde attend, que tout le monde voudrait, puisse réussir?
La première condition, c'est la volonté politique de tous les acteurs. S'il y a la volonté, nous pouvons y arriver. Alors, pour conclure, ce que nous, si je dois parler comme député national, comme jeune, je dis que nous sommes d'accord avec la démarche d'Obasanjo, qui y a le mérite de mettre tous les Congolais ensemble. Seulement que nous n'encourageons pas le fait que cette initiative aboutissent à une transition, aboutissent à des conclusions qui remettent en cause notre jeune démocratie. Deuxième chose, peut-être pour en profiter, le gouvernement qui est en train de résoudre le problème au niveau de Washington, à mon sens, devra associer toutes les personnalités, députés nationaux et sénateurs qui connaissent les rouages de ces dossiers pour parvenir à des conclusions qui soient profitables à notre pays. Je voudrais aussi rassurer le peuple congolais que notre pays, dans le cas de ces discussions, n'est pas en position de faiblesse. Nous avons tous les atouts qu'il faut. Nous avons nos minéraux et nos minéraux ne sont pas là pour être bradés, mais c'est plutôt un atout pour que nous puissions arriver à obtenir ce que nous voulons. Les discussions se feront en respectant les principes fondamentaux qui font le droit international, c'est-à-dire la souveraineté des États, et il n'y aura rien qui remettrait en cause ce que la RDC est. Il n'y a pas un État qui est au-dessus de l'autre. Nous avons tout ce que nous avons pour faire parler notre pays.
Merci Joseph Nkoy. Merci à Benange Kajinga qui nous suit depuis Nairobi au Kenya. Kakule Eduardo, vous nous suivez depuis Cape Town en Afrique du Sud. Christian Mwando, votre conclusion.
Ma conclusion, c'est celle-ci. Nous sommes un pays, nous pouvons avoir des déchirements, nous sommes frères. Nous mourrons frères. Aujourd'hui, il est clair qu'il y a eu beaucoup de tricheries, il y a eu beaucoup de violations des lois. Et aujourd'hui, je voudrais revenir sur la situation qui va arriver demain au Sénat avec le sénateur à vie, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, où on veut lui enlever des unités en violation de la loi. Qu'avons-nous aujourd'hui à nous déchirer après que la République est en train de négocier paix à Doha avec même les gens dont on soupçonne Kabila être les partenaires? Avons-nous besoin de ça? Aujourd'hui, nous avons besoin de la paix. Arrêtons donc de nous diviser. Soyons un pays fort, soyons un pays responsable, soyons frères. Et il est clair aujourd'hui, malgré j'ai suivi notre ami de la société civile, si vous voulez gérer la cité, entrez en politique. Ce sont les politiciens qui doivent régler les problèmes parce que ce sont eux qui sont en politique. Et aujourd'hui, nous demandons aux amis de l'Union Sacrée de mettre la balle à terre, de arrêter de tracasser, de voler les visas, de refuser les passeports, de chasser les gens du Congo.
Merci. Parce que lorsqu'on me chasse
de mon pays, j'ai une
intention,
c'est qu'il faut que les gens partent. Et ça, ce n'est pas bon pour la République.
Merci beaucoup. Rigan Nibiri, vous avez la parole pour votre dernier mot.
Mon dernier mot, c'est de dire encore une fois qu'ici, on est à un moment où il faut trouver tous les voies et moyens de protéger la République et construire un État. Et cela ne peut se passer que si on assure les uns les autres, que si on s'unit autour de ces buts et si on devient fort à l'intérieur, afin qu'on puisse faire face à toutes les menaces extérieures. Et cela va arriver que si des uns les autres ont l'humilité nécessaire à son processus et qu'ils acceptent aussi la redevabilité d'être mis devant leurs engagements. Et voilà, le temps de la justice aussi arrivera un de ce jour. Et voilà, si aujourd'hui on est en train de travailler sur la construction d'un État, de la paix, de l'État du droit, c'est que les gens qui ont commis des crimes, les gens qui ont volé, les gens qui ont tué des gens à l'Est, ils finiront par payer. Mais bon, pour l'instant, ce qui est important, c'est de résoudre cette crise. Mais on pense exactement qu'un jour, il y aura le temps de la justice et ça arrivera.
Merci, Rigen Miviri. Merci à Kadima Jean-Paul qui pense qu'il faut que les institutions en place changent leur manière de gouverner pour un résultat positif. Dialogue en congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Restez branchés sur la fréquence de la paix.